Si vous ouvrez votre Bible et que vous regardez où se situe le passage d'Évangile que nous venons d'entendre, vous remarquerez qu'il se situe entre le rejet de Jésus à Nazareth, que nous avons entendu dimanche dernier, et puis la suite qui est la mise à mort de Jean-Baptiste. D'un côté, le rejet de Nazareth, de l'autre côté, le martyre de Jean. C'est dire que l'envoi en mission des douze ne se déroule pas dans un climat de grand succès apostolique. Non. C'est donc clair, être envoyé pour porter l'Évangile, ça ne veut pas dire à tout prix réussir, avoir du succès, convertir des foules. Non. Le Seigneur ne nous demande pas de réussir, il nous demande d'aimer. Et c'est tout autre chose. Et c'est bon d'entendre cela dans le contexte de société où nous sommes, où ce n'est pas facile de porter l'Évangile. Je parle d'un exemple très concret et récent pour moi. Récemment est venue me trouver une maman en larmes dont la souffrance m'a bouleversée. Elle me raconte que sa fille Gabrielle, âgée de 14 ans, ressent depuis un certain temps qu'elle est un garçon et pas une fille. Et de fait, elle ne fréquente plus que des jeunes filles qui ont la même sensibilité, le même vécu qu'elle. Elle abandonne tout ce qui est féminin. Et récemment, elle a demandé à sa mère de l'accompagner pour acheter des vêtements au rayon homme. Et la maman perçoit le désarroi, la souffrance de cette fille. Mais son choix est arrêté et définitif. Elle est un homme. L'école, et c'est cela qui est nouveau, la confirme dans ce choix. Ne compte pas ce qu'elle est, une jeune fille, mais ce qu'elle sent, ce qu'elle ressent. Et la loi, en tout cas en Italie, va très bientôt lui donner raison. Et remettre en question ce ressenti sera bientôt un délit puni par la loi. Ce que je vous raconte là n'est pas un simple fait de société, mais une révolution anthropologique, une nouvelle manière de comprendre l'homme et la femme. Ne compte plus l'objectivité de ce que nous, chrétiens, nous appelons la nature, voulue et créée par Dieu, compte le ressenti. Nous décidons ce que nous sommes, et aucune limite ne pourra plus nous conditionner. Je suis qui je veux être. Je suis un être infiniment autonome. J'ai tout pouvoir sur moi-même. Et tous doivent respecter cette toute-puissance. Et bientôt, en Italie, on dit que le soccer masculin ou féminin disparaîtront parce que ce sera considéré comme une forme de discrimination. Voilà ce que vivent et vivront les jeunes. Et je dois reconnaître qu'ils vivent sur un continent, entre guillemets, qui, moi, m'est pour une grande part inconnu, et qui est le fruit de ce tsunami anthropologique que nous vivons en notre temps. C'est un continent qui ne veut pas de Dieu, mais dont Dieu aime profondément les habitants, entre guillemets. Et c'est vers ce continent que le Seigneur nous envoie, en nous rappelant que sa demande, son envoi, ce n'est pas pour réussir, mais pour aimer. Le Seigneur nous y envoie, et c'est à nous d'en comprendre peu à peu la langue, les us et coutumes, et là aussi, c'est une question d'inculturation. Le Seigneur m'a saisi, et c'est lui qui m'a dit « va ». Et j'entends Amos qui se rebelle. « Mais Seigneur, je ne suis ni prophète, ni fils de prophète. Va, va dans ce continent. » Il nous le dit à nous. « Va et fais-toi proche, proche des jeunes d'aujourd'hui, te souvenant que je ne suis pas venu pour condamner, mais pour sauver, toujours pour sauver. » L'envoi des douze que nous avons entendu, l'envoi des douze d'hier, du temps de Jésus, c'est notre envoi aujourd'hui. D'ailleurs, c'est très frappant, ça m'a beaucoup touché en méditant cet évangile, combien la mission des douze, dans l'Évangile est la photo de ce que sera l'Église demain. Les apôtres n'ont pas de grande structure, ni de grands bâtiments, et nous sommes en train de perdre ce que nous avions. Les apôtres n'ont pas de puissance sur le monde qui les entoure, et nous en avons, nous l'Église, de moins en moins, et c'est tant mieux. Jésus les envoie sans besace et littéralement sans cuivre, c'est-à-dire sans pièce de monnaie, sans rien. Et nous, nous sommes de plus en plus pauvres économiquement et parfois au bord de la faillite. Mais les apôtres ont une grande richesse d'être envoyés deux par deux. Et ce sera là l'essentiel de l'Église de demain. Un amour fraternel vécu dans de petites communautés, dans les familles, dans de petites fraternités. Les apôtres ont un appui seulement, un bâton, c'est-à-dire la croix, et la connaissance profonde, goûtée, savoureuse de Jésus crucifié, de Jésus abandonné, de Jésus ressuscité, est et sera la force de l'Église de demain. Et les apôtres ont dans l'Évangile, et nous aujourd'hui, une mission magnifique, invités, appelés à la conversion. Et la conversion, ce n'est pas de revenir en arrière, ce n'est pas une nostalgie d'un passé révolu, mais la métanoïa en grec, c'est un passage à une nouvelle manière de penser et donc de vivre qui va au-delà, qui est en avance sur le monde qui nous entoure, qui vit déjà du ciel tout en ayant les pieds bien sur la terre. Les apôtres ont, et nous aurons, et nous avons, un atout magnifique, la grâce de pouvoir porter au monde la libération et la guérison dont les hommes, dont les humains ont de plus en plus besoin, de porter la tendresse de Dieu. Je ne sais pas si vous avez vu sur Internet ou la télévision ce matin l'Angélus du pape François, qui est du 10e étage de l'hôpital du Gemelli à Rome, a récité l'Angélus. Il était accompagné d'enfants malades à côté de lui. Et en commentant brièvement l'Évangile, il disait que l'huile que les apôtres utilisaient pour la guérison des malades était l'huile de la compassion, l'huile de la tendresse de Dieu. Et c'est de cette huile-là que le monde d'aujourd'hui a tellement besoin. Parce que l'homme, la femme, qui s'érige en totale autonomie, en fait, se met en prison, étouffe son âme. L'âme a besoin de respirer Dieu, sinon elle suffoque. L'homme, la femme qui s'érige en totale autonomie, brise la famille, brise l'amitié sociale et la fraternité. Avoir le pouvoir absolu sur soi, c'est devenir un tyran. Et quand chacun est un tyran, c'est la guerre. Nous sommes envoyés dans ce continent nouveau pour y porter la tendresse de Dieu. Un papa, en France, me disait récemment sa souffrance parce que dans l'école où est son fils, une école catholique qui plus est, on y fait l'éloge de deux chansons. Une chanson de Michael Jackson qui est un hymne aux puissances du mal et une autre plus récente qui fait l'apologie du suicide. Vous imaginez la souffrance de ses parents. Nous, c'est une autre musique que nous voulons offrir au monde. Notre vie, si elle est chrétienne, est un chant d'espérance et de joie. Nous sommes et nous serons les troubadours de Dieu, les chantres de l'amour divin, de la miséricorde et du pardon. Nous chanterons qu'une vie nouvelle est toujours possible et nous chanterons surtout l'espérance du ciel. La liturgie monastique, celle du temps de Saint-Benoît ou d'aujourd'hui, est simplement là pour donner le « là », pour inviter tous les chrétiens à chanter Dieu par votre vie dans le monde. Et notre mélodie à tous, c'est celle du premier chapitre de la lettre aux Éphésiens que nous avons entendu aujourd'hui. Paul, l'apôtre Paul, y chante que notre vie ne vient pas du néant et n'échouera pas dans le néant. Notre vie n'est pas un instant fugitif de jouissance dont il faut profiter au maximum. Notre vie s'origine dans un choix fait par Dieu lui-même. Il nous a choisis, il t'a choisi dès avant la fondation du monde. Et il nous a choisis avec un cœur brûlant d'amour pour que nous soyons saints, mais saints ensemble, saints dans l'amour. Dieu nous a voulu libres, libres pour que nous puissions choisir l'amour. Et il nous offre son Fils, comme aujourd'hui dans l'Eucharistie, pour nous libérer de toutes nos prisons, de toutes les chaînes où nous enferme le non-amour, l'orgueil, la toute-puissance. En un mot, nous sommes nés de l'amour et appelés éternellement à l'amour, parce que Dieu est amour. Voilà ce que nous voulons chanter dans notre monde. Et non pas sur le mode mineur qui se lamente, qui se défend et ne crée rien, mais sur le mode majeur qui proclame la victoire de l'amour et se met à son service. C'est là notre responsabilité, chanter et prier. Chanter par notre vie et prier pour que les âmes ne se perdent pas. Nous sommes les serviteurs du rêve de Dieu qui veut que tous les humains soient sauvés, afin que le cœur du Père ne soit plus endolori par des humains qui refusent l'amour et se perdent en enfer aujourd'hui et éternellement. Et deux par deux, sans besace ni monnaie, appuyés sur la croix du Christ, nous proclamerons par un amour réciproque qui s'ouvre à tous que la vraie liberté que tous cherchent n'est pas sur un nouveau continent, mais dans le cœur de Dieu, et que c'est toujours Marie qui nous y conduit.